bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, c'est n'importe quoi.
Ça n'a aucun
c'est
sens.
La bande originale. Avec donc Leïla Kadour-Boudadi, Marina Rollman, Pierre Bonguil, Tom Villa.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Pasturo et nos invités Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Soyez les bienvenus Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry. On aurait aimé aussi inviter, pourquoi pas, Léa Drucker, Kevin Azaïs, Nina Meurice, Sarah Souko, Elena Noguera, Miguel Mircheff, Olivier Broche, Yvick Le Texier, Frédéric Pierrot, Éric Veillard. Je fais exprès parce que j'ai adoré Place Publique et que je trouve que chaque personnage, parce que ce sont des personnages, évidemment des comédiens qui interprètent des personnages, mais chaque personnage est juste bien casté, bien choisi, au bon endroit, même
la
si
biche,
c'est...
Même la biche, même... Oh, une biche. Qu'est-ce que ça saute bien, la biche.
Et Evelyne Buil, et Marie-Alès Brigo,
pardon.
Et
Michel
Olivier
Maziro,
Durand, Grégoire Osterman,
sans compter l'équipe technique.
Voilà, Michel Pitou,
c'est des acteurs géniaux.
Jean-Claude Simer.
C'est des acteurs, ne
vous, vous moquez.
Pas du tout. Oui, la voiture aussi, la Jaguar. Qui est, voilà.
Ne vous moquez pas parce que je vais vous avoir dans le nez. Je vais vous faire des réflexions tout le temps pendant vos chroniques.
Il n'y a pas de souci, Jean-Pierre. Il n'y a pas de souci. Ça démarre très bien. Je m'échauffe.
Mais, mais c'est comme ça que ça démarre.
Sam, alors, l'exemple de. On pense à Sam Carman. C'est l'exemple d'une belle amitié aussi. Vous, voilà, c'est un casting, c'est un choix, c'est un très bon comédien. Mais c'est une fidélité que vous avez et que l'on retrouve avec Léa, qui était aussi sur scène, dont on a parlé ensemble il y a quelques temps.
Oui, c'est la joie de la troupe. Et puis de connaître des acteurs qui sont merveilleux et qui acceptent. Et on avait envie de faire un film avec plein d'amis. On a régulièrement envie de faire des films avec plein d'amis d'ailleurs, mais là particulièrement.
Et ça se voit dans la manière dont c'est filmé, c'est-à-dire que on voit entrer comme ça les personnages dans le champ. On voit la troupe, quoi. C'est-à-dire qu'on suit toute la petite bande. C'est ça qui est réjouissant, c'est-à-dire qu'on a en effet des personnages qui sont un peu plus importants dans le cours de l'histoire. Tu te moques de moi, Nagui?
Pas du tout.
Mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, dans la réalisation même, on sent l'esprit de groupe, on sent le mouvement quand ça, voilà, quand tout le monde.
Je veux juste qu'on raconte.
Ah oui, d'accord. Moi, j'étais déjà dans la biche.
Petit résumé, petit résumé du film, parce que là, je pense que ceux qui nous écoutent ne savent absolument
c'est
pas
vrai.
De quoi nous parlons.
Mais
si
à la fois, ils s'en foutent aussi. Hein.
Non.
Blanchette,
j'espère pas. Place Publique, ce film que vous.
Moi, en tout cas, quand j'écoute la bande originale, ce que je fais assez souvent, au moment de ce que vous appelez le pitch, on sait très bien qu'il n'y a pas de mot français.
Résumé.
Non, le pitch. Eh bien, à ce moment-là, moi, c'est là que je me distrais en allant faire un café. Je m'en fous complètement du pitch.
Vous écoutez quoi dans l'émission alors?
Ben, c'est une femme qui s'aperçoit que, bon, ben, son môme est parti. Et là, moi, je vais boire un truc.
Okay.
Donc, on fait un pitch hyper court.
Non, alors, mais faites, hyper court. Faites-le.
Faites un café à la maison.
Hyper court, c'est une crémaillère qui est pendue. Voilà.
Non, alors là je ne suis pas d'accord.
C'est pas vrai.
Agnès.
C'est une crémaillère qu'on voit être pendue pendant tout le film, quoi.
Et pourquoi on dit pendre une crémaillère?
Alors parce que figure-toi que
c'est un chaudron.
Exactement, sur le foyer.
La crémaillère, c'est le crochet sur lequel on accroche le chaudron, et une fois que la maison a fini d'être construite, on peut enfin allumer un feu dans la cheminée et faire cuire la marmite.
Voilà.
Donc, en accrochant ce chaudron, on pend à la crémaillère, donc pendaison de crémaillère, on invite les potes pour le premier repas.
Absolument. Vous et moi, Nagui, nous sommes des autodidactes. et nous sommes toujours.
Du sud-est.
Des autodidactes du sud-est.
De Cannes.
Et nous sommes toujours contents, non pas d'afficher notre culture, mais de profiter de cette chance qui nous
partager.
A été donnée, de lire, de connaître des choses. Et on a une espèce
aussi.
De vraie satisfaction à le dire. C'est pour ça qu'on a tout de suite foncé sur la crémaillère, lui et moi.
Alors, je rajouterai avec votre permission,
s'il
Jean-Pierre,
vous plaît, allez-y,
que c'est une pendaison de crémaillère qui a lieu chez une productrice jouée par Léa Drucker. Elle produit un talk show que vous animez, Jean-Pierre Bacry, votre personnage en tout cas dans le film. Ce talk show a des problèmes d'audience et un effritement de l'audience sur la part de marché, comme on dit, c'est ça. Mais dont elle le protège un tout petit peu en étant en communication avec, on imagine, le PDG ou le directeur des programmes, en ne sachant pas si l'émission est reconduite supprimer ou pas. Parallèlement à ça, dans cette crémaillère, il y a aussi bien des membres de la famille que des voisins, que des commerçants du coin, et ou qu'un youtubeur extrêmement à la mode qui lui ne passe absolument pas à la télé mais fait 10 millions, 20 millions de vues sur YouTube. Évidemment, le youtubeur ne connaît pas l'animateur de talk show qui est un peu en descente d'audience et de mode, et l'animateur de talk show ne connaît pas non plus le youtubeur. Tout cela se fait dans une espèce de huis clos, dans une maison. Ça peut être intérieur, extérieur, mais c'est vraiment un huis clos avec des entrées, des sorties de scène, puisque nous parlions de troupes tout à l'heure. Et on peut y voir soit simplement une comédie psychologique dans les rapports humains, de tout genre, encore une fois, le père et sa fille qui a écrit une bio où il se sent concerné, où il se sent cassé, un chauffeur qui est viré, il y a un sentiment d'injustice, un voisin qui a trop de bruit, une femme qui est amoureuse d'un homme.
Un café, Jean-Pierre, un café, là, tout de suite,
ou pas ? Il est parti, accélère.
Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est bien vu, non, mais bien sûr,
il y a beaucoup de facettes.
Non, c'est vrai. Et puis, on a essayé d'aborder plusieurs thèmes. Le fait, justement, de vieillir, de constater l'inexorable, le fait de, justement, le déclin, la vieillesse.
Il faut quand même une première idée sur
les réseaux sociaux. Ouais,
et la notoriété.
Il faut la notoriété à deux balles, comme ça. Il
est... Qu'est-ce qui est plus intéressant de vieillir, de sentir que la vie nous échappe d'une certaine façon, ou d'avoir une sorte de notoriété pour rien, au fond?
Fulgurante et un peu vide, peut-être.
Oui, enfin, j'ai pas de préférence. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Agnès ?
Non, mais je dis pas que c'est une question. Non, laissons parler Agnès.
Oui, c'est vrai.
Qui réalise le film, quand même.
Non.
Ah, si. Et qui a pratiquement fait toute la bande originale. On va aussi parler de la partie musicale très importante, puisqu'il y a un groupe qui joue tout au long de cette crémaillère. Et la musique est très présente. J'ai l'impression qu'elle est de chaque seconde. Tout est en musique,
oui,
pratiquement, du musique.
Il y a effectivement des chansons du quintet officiel, qui est mon groupe de musique latine, mais c'est surtout Fernando Fisbein qui a fait les arrangements, et puis il y a un thème que
vous avez composé.
Ouais.
Assumez-le. Non, mais quel est le point départ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes dans ce film, mais le premier truc, vous avez démarré sur quelle idée?
Je sais pas, il y en a pas. On avait des désirs divers et variés depuis longtemps, certains, de parler du politiquement correct aussi, de parler du temps qui passe, mais aussi de faire donc un film qui se passerait dans un lieu unique, comme on le disait tout à l'heure, aussi de parler de la célébrité. Ça fait longtemps. C'est des thèmes qui nous ont toujours intéressés, mais comment elle varie avec les réseaux sociaux, qui changent la donne, et voilà, et de ce besoin d'être connu, reconnu de tous, qui est assez fascinant, surtout de la façon dont il peut s'exprimer aujourd'hui à l'aide de toute cette technologie. Donc il y avait
La génération, et même le syndrome du selfie et de cette serveuse qui fait des photos de tout le monde. Alors elle a un petit côté paparazzi, c'est-à-dire qu'elle reconnaît l'animateur incarné par Jean-Pierre Bacri. Elle fait des photos, mais pratiquement sans lui demander. Puis après, elle fait des selfies à côté.
Elle lui demande de sourire.
Ça, c'est formidable. Qu'est-ce que je fais? Avec la tête de Jean-Pierre qui dit, c'est ce que je fais.
Je souris.
Ça, c'est formidable. Mais c'est vrai que tout le monde se met en image ou se met en scène.
Oui.
Aujourd'hui.
Oui.
On n'a plus besoin de caméra, de lumière, de maquillage. Un téléphone suffit pour être vu par des millions de gens.
En tout cas, on a l'impression que pour beaucoup, si c'est pas vu, si c'est pas photographié, ça n'a pas existé.
Pas vécu, ouais.
C'est pas vécu et ça n'a pas d'intérêt. C'est marrant parce que le mec en bas qui fouille les sacs, j'ai cru qu'il voulait fouiller mon sac, mais il voulait un selfie en fait.
À l'accueil de Radio France.
J'allais pour. Bon voilà, c'est tout. Et après, j'ai mis ma bombe tranquillement.
En tout cas, lorsque vous étiez venus, chacun pour différents projets à ce micro, et que vous nous parliez de ce film, vous l'aviez présenté sous l'angle de la télévision. On va faire un film. Dont la toile de fond.
Oui, d'accord.
Vous avez dit, c'est la télévision et c'est la perte d'audience et les réseaux sociaux. C'était les trois mots qui revenaient.
Ouais, voilà, c'est ça, oui. Ouais. On pensait déjà à un animateur de télé sur le déclin et effectivement un jeune youtubeur, tout ça. On avait plus ou moins des choses, mais c'était pas encore. Est-ce que vous avez écrit
Mais je sais pas de quand, de qu'est-ce quoi
quand vous êtes venu
Non, mais vous étiez venu soit pour le
pour les pièces
de théâtre, oui.
Ah oui, voilà, mais on soit dit souvent n'importe quoi quand on tout le temps, mais aussi avant d'écrire. Enfin, quand on nous demande sur quoi on écrit, on dit on avait dit ça, d'accord.
Non, vous l'avez dit.
Parce que des fois on change. Enfin, je veux dire on part sur un truc, on croit partir sur quelque chose et puis tout d'un coup, il y a un sujet qui n'était pas prévu ou moins prévu et qui nous happe et où on s'aperçoit que on a beaucoup de choses à dire là-dessus et tout ça. C'est comme ça que les scénarios et les structures changent.
Quels sont vos rapports justement avec les réseaux sociaux et Internet?
Alors moi, mon rapport, il est très simple, je suis nulle part.
D'accord. Agnès?
Moi non plus. D'ailleurs, si vous voyez mon nom, enfin, il paraît que j'ai une page Facebook, machin, tout ça. Enfin,
c'est pas vous qui offrez des iPhones gratuits.
on en a tous plein, c'est ça.
Oui, des faux comptes.
Toi aussi, t'en as plein.
C'est-à-dire que le problème, en n'étant pas présent, d'autres prennent la place et se servent.
Je démerde, moi je m'en fous, je vois. Non, mais je le lis pas. Je ne permets pas, en fait. J'avais dit ça pour les critiques, mais pourquoi je lisais pas les critiques, c'est la même raison. Je ne veux pas être sur Twitter, sur Facebook, parce que je ne permets pas à des gens que je connais pas, qui sont peut-être des crétins, de me donner leur opinion sur moi. Voilà. Mm-hmm. De me dire pourquoi j'ai tort de penser ça et pourquoi je suis un connard. Vous savez très bien qu'il y a un truc, on en parlait avant l'émission, ouais. Un truc de lynchage, de horde, de meute, comme disait Agnès.
Ouais.
Qui fait que tout d'un coup, les gens, vous recevez 40 000 messages de haine sous prétexte que vous avez dit un truc féministe à la télé. Donc, fuck tous ces cons-là, et je veux pas les entendre, et je veux pas qu'ils me parlent, et c'est comme ça que je suis pas sur ces réseaux.
D'où est venue l'idée de ce huis clos dans un jardin? C'est quand même globalement, on est plus sur la terrasse et le jardin de la maison qu'à l'intérieur, même si on bouge un peu.
Bah, d'abord, à chaque fois qu'on commence à écrire, on a envie d'écrire une pièce. Donc, on se dit, pourquoi pas une pièce, puis si on n'arrive pas à monter le film, ou bien pourquoi pas écrire directement pour le théâtre. Et puis ensuite, le film précédent, au bout du compte, il y avait 53 décors. Enfin, c'est un temps de préparation beaucoup plus long. Un temps de, on avait envie de cette contrainte-là, qui est souvent source de création.
Unité de temps, unité de lieu, oui. Voilà. Les trois unités essentielles au théâtre.
Et on vous retrouve tous les deux dans le film, ancien couple séparé, une fille en partage qui, elle aussi, met un peu votre vie sur la place publique, même si elle insiste lourdement, la fiction intervient dans son travail, c'est une romancière, avec des réactions plus ou moins agréables, on va dire, oui, c'est ça. Et votre personnage, vous, Agnès, c'est intéressant parce que vous êtes cette femme engagée qui cherche à tout prix à placer une réfugiée dans votre émission et qui fait signer une pétition tout au long de cette crémaillère. Et vous ne vous reconnaissez pas dans les traits du personnage décrit par votre fille dans le roman. Parce que...
D'une maman qui ne nourrit pas ses enfants.
Oui, de cette maman. Et vous avez cette phrase très très dure et très juste en même temps. Vous ne nous pardonnez rien, vous ne nous laissez rien passer. Et je me demande si vous, en tant que maman, vous avez ce même regard-là sur les enfants. Les enfants sont-ils aussi terribles que ça?
Mais évidemment.
Je ne sais pas.
Oui, c'est normal. Vous déteste à un moment, il faut qu'ils vous en veuillent de tout. Ça fait partie de l'émancipation.
C'est normal. Tu verras.
Ah oui, c'est vrai. Moi, j'étais. Enfin, je dis, c'est vrai. On est aussi vache que ça avec les parents.
Mais de la même manière qu'on l'a été avec nos propres parents aussi.
J'ai que ce rapport-là.
C'est l'histoire de la vie, comme disait le roi Lion, qui est un grand philosophe.
Non, parce que forcément, on cherche plein d'éléments un peu autobiographiques qui pourraient être disséminés dans le film, parce que voilà, le rapport à l'animateur prestigieux qui est un peu en perte de vitesse. On cherche des clés. On cherche des clés surtout le personnage de Léa Drucker. Moi, j'ai cherché plein de clés. Aussi pour me dire, tiens.
Ah, moi j'ai vu à quelle productrice, j'ai vu qui était la productrice.
Je suis sûr que tu as vu.
Mais évidemment, on voit quel est l'animateur aussi.
Non.
Si.
C'est un mix, l'animateur,
c'est un mix de 4-5.
Ouais. C'est vrai. Le postiche m'a mis sur une autre piste. La tenue entièrement noire m'a mis sur aussi une autre piste.
Ah oui, mais ça, d'accord, mais moi je m'habille en noir par exemple depuis 40 ans. Et la plupart, je connais plein de Parisiens, plein d'artistes qui ont la manie de s'habiller en noir.
Oui, mais là, vous êtes en noir clair, Jean-Pierre.
Non, non, mais ce qui est formidable dans ce film, que l'on, je sais pas si la définition de comédie psychologique conviendrait, je sais même pas si elle existe d'ailleurs, mais je trouve qu'il y a beaucoup justement de rapports comme ça, mentaux, entre les différents invités de ou membres de la famille. Et puis ça reste une comédie avec des zones d'ombre aussi ou de d'émotions, mais ça reste une comédie. Si, il y a des moments tristes.
Non, parce que je pensais à deux metteurs en scène que j'ai entendu parler à France Culture.
Vous aimez le café, vous.
Et qui étaient hyper, hyper d'accord entre eux pour dire qu'ils n'aimaient pas la psychologie.
Ah bah
et ça m'a fait rire, parce que c'est comme si le mec disait « Moi, j'aime pas l'oxygène. » Ça m'a fait...
Est-ce que cette pseudo-catégorie de comédie psychologique vous convient ou pas?
Moi, j'aime bien le terme de comédie dramatique qui existe au théâtre.
Ouais, c'est vrai. Oui.
Donc, voilà. Il y a de la comédie, du drame, donc de la psychologie.
Qui, ouais,
mais pourquoi
pas,
non, mais comédie psychologique, c'est très bien aussi.
Et puis les personnages évoluent aussi dans le film. C'est pas simplement caricatural d'une situation avec les différents rapports ou les situations même sociales dans lesquelles les uns et les autres se trouvent. C'est ça qui est fort aussi, c'est qu'en une soirée, beaucoup de vie ou de destin bascule.
Et un couple se forme.
Oui. Mais oui, c'est ce qu'on a envie de, en général quand on raconte des histoires. On aime bien montrer des espèces de mini démonstrations psychologiques, justement des mini, enfin comment des détails peuvent influencer votre façon d'être, etc. Et puis il y a justement cette idée de la fête avec la préparation, la fête et l'après-fête qui sont une espèce de acte 1, 2, 3 et qui permet justement de voir et puis la fête, c'est aussi on présente un masque, justement comme sur Facebook ou sur tout ça, on présente une image de bonheur et de santé et puis après on voit derrière les masques.
Voilà. C'est un très bon film, cinquième film d'Agnès Jaoui, co-signé Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, avec un casting, encore une fois, pléthore d'acteurs et de qualité et de justesse, y compris ceux qui ne disent rien, qui ne parlent pas. On sent, je ne sais pas si c'est un directeur ou une directrice de casting qui vous propose ces rôles, ou si c'est vous qui allez les chercher parmi ceux que vous avez croisés au théâtre ou sous d'autres tournages.
Brigitte Moidon fait un super travail
voilà,
avec moi aussi.
Mais c'est formidable, c'est jouissif, c'est le 18 avril, mercredi prochain, au cinéma. À voir absolument. C'est clair, Tom?
Je suis pas sûr de vouloir refaire le pitch. Tout d'un coup, Jean-Pierre va partir. Et voilà. Non, mais voilà. En gros, vous avez décidé de vous attaquer à un sujet universel qui nous touche tous, un jour ou l'autre, que l'on soit connu, inconnu, que l'on soit riche, pauvre, marié ou célibataire. C'est la pendaison de crémaillère. C'est l'enfer, ce truc.
T'as la chance d'avoir une maison, oui.
C'est l'enfer, ce truc. Oui, ou un appartement. Ouais. Enfin, à toi, quoi, du coup. Non, mais c'est vrai, tu dis à tes collègues de boulot que t'as déménagé le week-end dernier. Ils te font, ah, génial, on l'a fait quand, cette pendaison de crémaillère? Mais non, si j'avais envie de t'inviter chez moi, je le ferais. J'ai pas besoin d'un prétexte pour ça. Je t'ai pas invité avant, je vois pas pourquoi je vais t'inviter maintenant. Tu viens d'emménager, le déménagement c'est déjà un truc assez casse-couille comme ça. T'as tout rangé, tout cliné, et non, il y a des gens qui veulent débarquer à 25 chez toi pour tout saloper. Non mais c'est vrai que tu l'as fait quand d'ailleurs ta crémaillère? Le soir de ton emménagement, c'est prendre le risque que ceux qui étaient pas là au déménagement détestent ceux qui étaient. Enfin, quelle galère la pendaison de crémaillère. Déjà le concept inaugurer son appart. Alors c'est vrai que quand t'as 160 mètres carrés dans le 8e, je peux comprendre que t'as envie de le montrer comme une œuvre d'art. Mais quand t'as un studio de 12 mètres carrés pour deux clients courts, peut-être pas d'urgence. Quoi. Ça vous dirait de faire une soirée dans un placard? Oui, on arrive, y a pas de souci. Moi j'ai un pote qui a emménagé dans un 30 mètres carrés. On était 30 à sa crémaillère. C'était plus une soirée, c'était un Tetris. Je suis sûr, on était serré, on se serait cru dans le métro. Il y avait même des frotteurs, un vendeur d'euros, ça n'avait aucun sens. Plus, quand t'es jeune, il y a du monde. Généralement, à chaque recoin de l'appartement, ça devient un petit salon de discussion. Donc, voilà, je vous fais visiter. Tiens, regardez, là, c'est la cuisine. Tiens, pousse-toi, Guillermo, tu bloques l'accès au frigo. C'est... Ah, d'accord, tu t'es autoproclamé videur du frigo. D'accord, super, d'accord. Donc, bon, pardon.
C'est Guillermo.
Donc là, c'est la chambre. Sous le manteau, il y a le lit.
Non, là, c'est Guillermo.
Qu'est-ce que tu fous? Tu fouilles?
Ouais, j'en repose, t'inquiète, j'en repose.
D'accord, ok, bon, très bien. Et là, c'est les toilettes.
Non, voilà. C'est encore Guillermo.
Vous êtes combien? T'es l'agent Smith dans Matrix ou quoi? Tu te fous de ma gueule? Et puis évidemment, dans une crémaillère, il y a toujours un petit accident d'un verre qui tombe. Alors quand c'est du champagne sur le carrelage du salon, c'est pas grave, on dit que ça baptise l'appartement. En revanche, quand c'est du vin rouge sur la moquette beige de la chambre, ouais, ça fait bien chier, on dit que la caution va sauter. Non, et puis déjà, pour les anniversaires, tu galères à trouver un cadeau. Mais une crémaillère. Tu le fais à qui le cadeau, au locataire ou à l'appartement? Enfin, tout le monde se cotise pour lui payer un mois de loyer. Comment ça se passe? Et écoute, j'avais pas d'idée et du coup je suis un peu ric-rac en plus. Donc du coup je t'offre un mois d'abonnement à Netflix. Voilà, c'est j'ai pris le petit abonnement à 7 euros. Voilà, et encore, ça c'est un bon cadeau. Moi c'est simple, des fois les crémaillères que j'ai organisées chez moi, ça s'est terminé en défilé de cadeaux pourris. Mon appart c'était devenu un rayon de farce et attrape chez Jiffy. Ah bah c'est gentil, un tablier de cuisine avec des nichons. Bah c'est bah oui. Je ne savais pas qu'on pouvait cuisiner tout en s'amusant. Merci papa. Voilà, un décapsuleur mural formidable. Bien sûr que je vais l'accrocher à côté de la pompe à bière et du moule à glaçons en forme de pénis. Bah oui, bien sûr, mais c'est bien, ça fait pas alcoolique. Bon, en tout cas, vous savez quoi, je vais déménager bientôt. Vous êtes tous invités à ma crémaillère. Mais comme c'est un peu petit chez moi, on la fera chez Nagui. Allez, bonne émission.
Merci, très bien.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et c'est pourtant vrai qu'ils sont super. Combien de temps que tu n'as pas vu.
Il est bon, lui, hein,
un peuplier, une fleur.
Qu'est-ce que j'adore cette version.
C'est toi quelque chose pour les oublier. Il y a toujours une gare en train. Change de ciel. Viens voir la terre.
Puis alors vous aussi, hein. Donc là, ce sont les mêmes musiciens, c'est votre groupe.
Pas tous, mais la plupart.
La BO est disponible quelque part d'ailleurs.
Alors, non, alors c'est complètement idiot, mais enfin bon, bref, non. Pas toujours, pas encore.
Pas vous, Agnès. Elle devrait. Ah oui. Mais pas vous.
Mais je sais.
Mais pas vous.
Vous voulez qu'on parle des maisons de disques?
Pas vous, de Vincent Frermot, pas vous.
Non, non, mais
venez faire un taratata, on se débrouillera.
Elle est venue, mais c'est
mais
pas
je la veux,
c'est,
mais
c'est
même,
fou
la,
ça.
La BO, bah oui, bien sûr.
La BO est dingue.
Mais oui,
elle
mais
est dingue.
Bien
elle fera un carton.
Et elle est faite en plus.
D'accord, donc c'est une question de semaine, ça va arriver.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Puis comme ça, on pourrait retrouver les titres de Jean-Pierre.
Bien sûr.
On fait semblant d'entrer. Bon,
alors,
Jean-Pierre qui chante, parce que je sais pas.
Oui, il y a même Jean-Pierre qui chante.
Je sais pas, Ben non, je sais pas. On va pas pirater le film, je sais pas.
Oui,
j'ai la version de Vachong, oui,
avec
mais j'ai
un
pas.
Vrai swing. J'ai pas il y a un vrai pure. Swing de, Bernard, de Jean-Pierre Bacri avec.
Elle est formidable. Du coup, vous l'avez pas. Ben oui, c'est trop.
Ben non.
Couillon, elle est formidable, votre version.
Ouais.
Oh, c'est gentil.
Non, elle est formidable. Ah, non, mais elle est juste, elle est dingue.
Il y a du swing.
Et non, il n'y a pas du swing.
Si,
c'est,
du swing.
C'est la fin de soirée, il est sur les marches. C'est guitare-voix, c'est incroyable. Puis vous chantez juste en plus.
Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça que je dirais. Je chante juste.
Non, c'est pas donné à tout le monde. Le karaoké, à la fin, tout le monde chante pas juste.
Ouais, c'est vrai, donc,
ah oui, dans le film, ça fait mal aux oreilles, le karaoké.
Ah,
c'est tellement drôle.
Florence Muller, qui est tellement démon.
Oui, Florence Muller.
Pour le karaoké. Mais non, vous chantez juste et puis vous interprétez. C'est-à-dire que. Voilà, vous ne faites pas que.
Bah, je fais une espèce d'imitation merdique de Bachon, quoi.
Non,
ah, non,
non, on n'est pas merdique.
Non,
la,
oh, là, l'imitation.
Fiche en
compliment.
Non, Jean-Pierre Bacri, l'imitation merdique, c'est Yves Montand.
Ah oui, Yves Montand, oui.
Ça, c'est l'imitation merdique.
Ça lui tenait à cœur, j'ai l'impression qu'il est vexé. C'est con, parce que.
Non, mais dans Bachon, je veux dire, je joue un mec qui imite Bachon, je veux dire.
Je... Oh non, pas tant que ça.
Voilà. Non, non, pas du tout.
Non, pas aussi exacerbé.
Vous l'interprétez vraiment.
Montand, c'est complètement exacerbé. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup ri parce que comme Nagui adore faire des imitations de Montand, là, je me dis qu'il y a une petite battle possible.
Oh, j'aimerais tant que tu te souviennes.
C'est bien. Jean-Pierre, à vous.
Ah, bah, bien sûr.
Allez-y.
Non, moi, j'ai trop le trac. Si j'étais acteur, oui.
C'est pas grave. C'est pas grave.
Ah non, vous pouvez pas le laisser remporter la manche comme ça.
Ouais.
Si.
Derrière des berlines.
Voilà. Ah mais c'est pas si.
Non, mais c'est juste pour dire que j'imitais mal Bachon.
Oui, mais c'est mieux dans le film.
Et voilà. Oui, je vous assure que dans le film, c'est mieux et dans la bande originale qui sortira dans quelques temps. Et dès qu'elle sortira, on en passera des extraits ici et on vous préviendra. Vous vous régalerez. Mais allez au cinéma le 18 avril en place publique. Il y a la première chanson, et sans dévoiler l'intrigue ou les rebondissements qu'il y a dans le film, parce qu'il y en a aussi. Chaque minute dans les rapports entre les personnages et dans surtout ce qui se passe dans la carrière du personnage de Jean-Pierre Bacri. Vous appelez comment d'ailleurs en tant qu'animateur, je sais plus.
Castro,
c'est ça.
Castro, l'ancien monde quelque part.
Voilà.
C'était pour ça.
Non,
mais bon, c'est comme ça que je le lis. En tout cas, Castro, l'ancien monde, la télévision, les youtubeurs qui ne regardent plus la télévision, qui ne savent même plus vraiment qui est Castro, en fait, c'est ça. C'est parce que ce rapport de la notoriété, il est intéressant Ah bah Agnès.
Un petit accident. Je vais renverser de l'eau, hein, je le dis. Pour...
Cette notion de notoriété, elle est intéressante parce qu'elle est relative selon le public. C'est-à-dire que le youtubeur, bien sûr, les jeunes gens. D'ailleurs, c'est la serveuse, elle est un peu ce personnage qui fait l'intermédiaire entre les deux mondes.
Entre les deux, oui, elle connaît
la fois Castro et elle connaît à la fois l'univers de ce youtubeur. Mais finalement, Castro n'est rien pour les jeunes gens.
Elle connaît tout le monde et elle se sent pas du tout à sa place là où elle est dans la soirée. C'est ça qui est drôle.
Mais c'est vrai d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est vrai ce que vous dites parce qu'on en fait l'expérience tout le temps quand on parle de Mr. V, le mec qui joue...
Yvick,
là, voilà, qui est Mr. V dans dans la vie du réseau, de YouTube, tout ça. Eh bien, quand on en parle aux gens qui ont plus de 25 ans, on va dire, ils ne savent absolument pas qui c'est du tout. Et en revanche, des jeunes entre 10 et 20 ans, enfin, je veux dire, j'ai pas fait un compte exact, enfin, entre les jeunes.
Ne savent pas qui on est.
Oui, c'est vrai.
Ils ne savent pas qui on est. Oui, c'est vrai.
Enfin, ni personne de la distribution.
Mais tout d'un coup, quand vous égrenez la distribution, que vous dites Mr. V, tout d'un coup, c'est clair, genre, lui, je connais. C'est un peu ça qu'on a.
Parce qu'il existe vraiment.
De quoi? Bien sûr.
Tu connais pas.
Exemple.
Je crois que c'est un comédien qui est excellent, un comédien, Pataya et tout,
qui est un super comédien, Mr. V, qui fait partie du monde.
Pataya, j'ai vu, mais j'ai pas.
Non, mais je.
Voilà un vieux. Non, mais j'assume.
Le nouveau monde.
Et l'ancien.
Et l'ancien.
Ça va, Castro?
J'assume.
Mais c'était le cas du film avec Thierry Lhermitte. La finale, il y avait un jeune homme charmant à ses côtés, qui était très très connu du jeune public.
Ryan Bensetti.
Ouais, non, ça j'avais déjà un peu plus vu dans Saga Star. Ouais, non, il y a eu quelques articles quand même dans la presse sur lui. Non, mais ce sentiment, et je l'assume totalement, de vieil animateur, je m'en suis rendu compte.
Et la moumoute, tu l'avoues quand?
Alors, j'ai pas de couleur, pas de moumoute. Mais non, le truc le plus mignon, c'est lorsqu'il y a des jeunes, comme il y en a parmi le public, qui viennent en disant « je peux faire un selfie ?» Je dis « oui, avec plaisir ». Puis moi, je suis... très content, et puis je dis jamais non. Et là, au moment du selfie, il y a la petite voix de la jeune fille qui dit « Ma grand-mère vous adore. » Et c'est pour ma grand-mère. Et je dis « Embrasse ta grand-mère. » Voilà, et ça me fait très plaisir, ça me renvoie...
Et quand vous dites « Embrasse ta grand-mère », c'est évidemment une... Il faut comprendre...
C'est pas une contrepétrie, non, il n'y a rien. Franchement, j'ai cherché, il n'y a rien. Non, c'est sincère, j'aime les grand-mères.
Là, ça devient bizarre.
Et non, mais ça fait un peu insulte, embrasse ta grand-mère.
Ah oui,
embrasse ta grand-mère.
Là, vous rajoutez.
Je sais pas ce qui m'arrive.
Vous rajoutez un petit côté 9-3 qui est pas agréable.
Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi.
C'est un cliché. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit qu'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri revenaient dans cette émission.
Oui, et quand je pense à vous, Agnès et Jean-Pierre, je pense évidemment à vos films, mais aussi à un débat qui fait toujours un peu rage dans le cinéma français.
Non, je vais vous dire franchement les choses. Je suis un peu embêté, moi, avec ce prix. Je suis un peu embêté parce que c'est le prix du public alors que ça devrait être le prix du box-office. Et je me dis que là, il faudrait juste maintenant arrêter et dire « Ok, on va faire le prix de la comédie et voilà, et puis on l'assume. » Il y a le César du film documentaire, pourquoi pas faire le César de la comédie et puis voilà. Et c'est le sens de la fête qu'il aurait eu cette année. Et ça aurait été très bien parce que c'est un grand film.
C'est Olivier Barou, le réalisateur des Tuches, qui parlait du César du public attribué à Red Ding de Danny Boone. Jean-Pierre, vous étiez nommé cette année pour le sens de la fête, qui malgré 10 nominations est reparti bredouille.
Avec zéro, oui.
Ouais. On se dit quoi quand on passe une telle soirée?
Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Ouais. Enfin,
c'est déjà bien d'avoir des nominations.
Voilà, c'est ça. J'aurais tellement voulu que tu répondes à ma place. Et c'est exactement ce que tu as fait à ce moment-là.
Entre nous, c'est une formule de politesse. Ça doit piquer quand même au fond parce que. Je vous adore. J'ai adoré ce film. J'ai regardé la soirée. Moi, j'avais un sentiment d'injustice. Ouais. Moi, un peu plus spectateur.
En tant que spectateur, ça. Ouais.
Merde, quoi. Rien.
Mais.
Ça arrive.
Tu peux répondre à ta place?
Ouais, je veux bien.
Alors d'abord, ça n'empêche pas la qualité du film, ça n'empêche pas la qualité d'autres films qui n'ont même pas été nommés. Et ensuite, c'est vrai que quand on a un César, on peut se lever et aller boire et fumer. Et ça, c'est super.
Quand on l'a pas, on reste assis jusqu'à la fin de la soirée.
Non seulement on n'a pas d'adrénaline, mais on reste assis.
Une fois, on est parti et ça a été très mal vu.
Oui,
bon. Enfin, très bien vu.
Non, un jour, ils se sont levés, ça a été filmé, on a vu qu'ils se levaient.
Mais non, pas du tout, ça n'a pas été filmé, pas du tout. Mais ça n'a pas été filmé, on a été dénoncé.
On a été dénoncé, mais effectivement, on s'est levé parce qu'on avait faim, on est allé bouffer. Ça a été
par la police du bon goût au cinéma.
Là, je ne voyais pas ça sous cet angle-là, c'est-à-dire pas être récompensé, c'est la possibilité de partir. De ne pas partir, d'être coincé dans
c'est le.
Je n'avais pas envisagé ça comme ça. Mais pour revenir à la reconnaissance de la comédie, la notion de catégorie, il y a beaucoup de réalisateurs en tout cas qui revendiquent cette notion de catégorie comédie.
Mais ils ont plein de public. C'est vrai.
Jean-Pierre, vous mangez quoi ce midi? Agnès, une réponse?
Oui. Le rire, faire rire, c'est pas bien vu. C'est pas, ça n'attire pas des
comment
prix.
Comment vous l'expliquez?
Ça n'attire pas. Mais c'est pas grave.
Non, mais comment
déjà,
vous l'expliquez?
On fait rire.
J'ai pas dit que c'était grave, hein, mais comment vous l'expliquez? Vous, une
alors que c'est tellement, difficile de faire rire et c'est plus facile de faire pleurer.
Mais parce que, parce qu'on est plus considéré quand on dit du mal et on est plus considéré, enfin, quand on dit du mal, quand on n'aime pas, quand on est critique, quand on fait des choses qui ont l'air compliquées parce que les critiques peuvent, du coup, expliquer ce qu'eux ont compris ou parce qu'on se sent plus intelligent ou parce que, on a honte du plaisir en général, on a honte de l'orgasme, on a honte de rire, on a honte de jouir, donc je sais pas, enfin tout ça, et puis dans un pays assez intellectuel, de culture, et c'est très bien comme ça, c'est pas grave, franchement, déjà il fait rire, et déjà il fait plein d'entrées.
C'est ça que j'allais dire avant.
Après avoir des prix en plus.
Mais ce qui est compliqué de faire, si on fait une catégorie comédie au César, c'est que par exemple, beau de film, est-ce que c'est une comédie ou pas une comédie? Est-ce
qu'elle mériterait d'être dans la classe publique? Ouais, là, non.
Bah oui, du coup, ça
complique. Comédie dramatique, on t'a dit.
Oui, mais ça complique la chose.
Franchement, et c'est ce que dit Agnès à la fin de son petit truc, son petit propos.
Laïus.
Des gens comme Red Ding ou toutes ces comédies-là, ils ont déjà beaucoup de public.
Oui, mais est-ce que c'est une raison pourquoi ils auraient la
beaucoup de public
récompense.
Et des distinctions? Les distinctions, c'est fait pour les films, justement, qui n'ont pas trouvé un public ou qui n'ont pas eu tant. Vous voyez ce que
donc
je veux dire?
Donc vous n'êtes pas d'accord avec le César du public? Du nombre d'entrées, puisque
je trouve ça
bien rajouté.
C'est pas un vote.
Ouais. Non, c'est pas un vote. C'est un constat du nombre d'entrées.
Mais les Césars, c'est un vote. Mm-hmm. C'est un vote de la profession. Tout d'un coup, on interrompt le vote de la profession pour dire non, on va faire aussi un vote de pas la profession. Si vous voulez, moi, en fait, franchement, je m'en tape complètement.
Très bien.
Non, mais c'est vrai. Passons à autre chose. Ça existe, ce que ça n'existe pas, je m'en fous.
Mais sur Twitter, ça s'embrasse, Jean-Pierre. Hein,
Vous êtes insulté sur.
Place publique, ce film, très bon film, sort mercredi prochain, le 18 avril. Et voici l'humeur de Guillermo Guise.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Salut. Alors cette semaine j'ai vu une vidéo d'une très grande tristesse. Oh ça va, tu exagères, il a le droit de s'exprimer François Hollande. On verra le jour où toi aussi tu aurais pu battre Emmanuel Macron, ça suit. Non mais rien à voir, non pas du tout. La vidéo pathétique en question c'était la présentation du nouveau doyen de l'humanité. Oh ça va, tu exagères, il a encore la pêche Charles Aznavour, il tremblote un peu sur son répertoire. Il tremblote sur son répertoire reggaeton, mais dès qu'il repart dans ses classiques. Non, rien à voir avec Charles Aznavour. Et arrêtez de m'interrompre, moi j'ai que 3 minutes ici pour faire mes preuves. Essayer de décrocher qui a un rire, qui a une connivence, qui a une compassion. Je suis pas venu pour souffrir, sinon dans la vie j'aurais fait Cheminot ou Ted Aurier de Gérard Depardieu. Non, le nouveau doyen de l'humanité s'appelle Masazo Nonaka, il a 112 ans. Et je vous promets un truc, c'est que sa vidéo de présentation, elle donne pas envie d'avoir 112 ans. Moi, j'ai rien contre les vieux, moi je suis sur France Inter et tout, avant-hier encore, j'ai bu un thé. Je dis pas il y a longtemps, j'ai dit il y a belle lurette et tout, je suis prêt pour la finitude. Mais là, le pauvre Masazo, il pose en fauteuil roulant devant une nuée de photographes, la mâchoire un peu pendante, et il y a quelqu'un qui vient lui redresser sa mâchoire, ça m'a fait mal au cœur. Masazo, il a vu la vidéo, après ça a été un électrochoc, il s'est dit c'est bon, ça suffit, je reprends le sport. Peut-être pas tout de suite le MMA, mais si je pars sur un 3 fois semaine un peu strict, je peux viser qu'on arrête de me toucher la bouche devant témoin. Donc vraiment, le pauvre, il essayait de parler, mais c'était complexe, quoi. Sa diction faisait penser vraiment à celle d'un certain chroniqueur de la bande originale, dont le nom de famille commence par. Et maintenant, la drôle d'humeur de Guillermo Guise. Vous le saviez, ça? Pour mes droits d'auteur, la SACD ne paye pas au mot écrit, moi, elle paye au mot articulé. En 2017, j'ai reçu 11 euros. Non. À production égale, Edouard Balladur, il prend 30 000 et il va encore s'acheter une paillote. Non, vraiment. Mais Masazo Nonaka, il a l'excuse quand même d'avoir 112 ans. Il est né en 1905. Les balbutiements, n'oubliez pas les paroles, quoi. 1905. Moi, j'ai vu les images, Nagui, c'était adorable. Vous avez un costume trop grand pour vous. Et je vous revois encore. Et c'est sa première télé, mesdames, messieurs, Arletty. Mais genre, vous regardez dans la mauvaise caméra et tout, c'était hyper cute. Oui, 1905. Il a passé toute sa vie au Japon, Masazo. Le Japon, c'est un pays où on devient souvent centenaire. Pourquoi? Parce qu'on est épargné par le fameux stress au boulot. Le mal du siècle en Europe, évidemment. Mais au Japon, évidemment, les gens se réveillent une demi-heure trop tard. Ils disent, c'est pas pour une demi-heure, hein, c'est pas très grave. Eh bien, si, en fait, c'est grave. Le patron l'a mal pris, il s'est tranché un doigt pour montrer qu'il est courroux. Du coup, si tu te suicides pas au Japon, tu as quand même de grandes chances de vivre longtemps grâce aux sources d'eau chaude et à la mort précoce de Godzilla, qui mettait quand même une forte tension sociale dans l'île. Et c'est ce qui est arrivé à Masazo, 112 ans, donc une grande famille. Sept frères, le plus jeune a 17 ans. C'est son grand frère, mais il le considère plus comme son arrière-grand-père. Parfois, il lui dit, Masazo, grand frère, tu vois, cette fille, je l'aimais trop. Moi, je suis sûr, je tomberai plus jamais amoureux. Et alors, Masazo, il dit, parce qu'il n'entend plus les sons humains. Mais il est encore là. Son secret de longévité, c'est le mariage. Il s'est marié en 1931. Il a divorcé en 1932. Depuis, une pute par semaine, pas plus, en congé scolaire. Très peu de cocaïne avant 17 heures. Jamais sniffé, uniquement en salade ou en sushi. Résultat, 112 ans. Ça me frappe à chaque fois. Qu'on présente le nouveau doyen de l'humanité, son secret de longévité, c'est toujours un truc qui fait mourir tout le monde. C'est ça. En général, c'est toujours son secret. Bah, il boit son petit coup de rouge depuis 60 ans tous les jours. Ouais, trop bien. J'attends encore le mec qui arrivera à 120 piges en faisant moi, jamais fumé, jamais bu, jamais sorti. Mon secret, le quinoa. Vraiment, j'en peux. Par pitié, tant que vous êtes là, tuez-moi. Vraiment, j'en peux plus de ma vie. Ça fait 120 ans que je me fais chier. Là, c'est bon, j'ai vu toutes les saisons du commissaire Moulin. Ça suffit, quoi. Bon, et c'est ce que je nous souhaite vraiment d'arriver si longtemps dans la vie, mais de pouvoir remettre nos mâchoires nous-mêmes. Allez, bonne émission.
Merci. Nagui, la bande originale.
Dans la bande originale de d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri, allez, encore un tout petit peu la BO quand même du film Place Publique.
Et ça fait combien de temps?
Mais que vous ne pouvez pas
acheter. Pas encore.
Un peuplier, une fleur, des champs.
Et nous allons écouter aussi les musiques que vous écoutiez en 2000, par exemple, Agnès, au moment du Goût des autres, vous écoutiez Pat Metheny Group. Vous voyez dans quelles circonstances vous écoutez ce genre de musique, seul, chez vous, au casque, dans le train, je sais pas.
Tout ça.
Ouais.
Et puis c'était entre autres une des musiques du film, donc ça me rappelle fortement cette époque.
Le goût des autres.
Mmh. On est en 2000, c'est votre passage à la réalisation, Agnès Jaoui. Et l'histoire du goût des autres, c'est celle de Jean-Jacques Castella, un entrepreneur normand que vous incarnez, Jean-Pierre Bacri, qui tombe amoureux de sa prof d'anglais qui est aussi comédienne. Une façon de dire que tout d'un coup, on a des rencontres hors milieux sociaux, des choses qui sont un peu improbables finalement autour de vous. C'est ce que vous aviez constaté?
Oui, la force de l'habitus et le déterminisme social sont des thèmes qui nous passionnent depuis toujours. Et effectivement, oui, on se rend compte qu'on a des amis et des amoureux qui sont finalement dans notre milieu. Mm-hmm. Et que même si les différentes castes paraissent plus poreuses, ben elles restent justement, entre autres parce qu'elles sont inconscientes, très très fortes et très
c'est ce qui est
très
encore,
étrange.
C'est ce qui est encore en place publique.
Totalement, aussi, bien sûr.
Ouais, cette thématique est toujours là.
Un voisin qui vend des radis ou des légumes, qui n'a pas la télé, donc il connaît personne, il sait absolument pas qui est qui. On est aussi un peu dans le bourgeois gentilhomme, dans le goût des autres aussi, de ce dépassement de classe sociale et...
Mais c'est vrai.
Quand
c'est
on
vrai. Oui. Et puis sur l'idée du goût et du bon goût selon les castes auxquelles vous appartenez.
Oui, tout dépend toujours d'où on regarde en fait. C'est toujours ça, cette idée-là.
Oui, exactement.
Vous écoutiez vous Jean-Pierre Bacri, Nina Simone. C'est bon ça.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good.
Elle pouvait chanter ce qu'elle voulait n'importe quoi, elle avait une voix de dingue. Les reprises qu'elle a faites étaient à pleurer. Nina Simone, cultissime, feeling good. Que Muse avait reprise aussi cette chanson dans une version plus rock, mais.
Est-ce que vous pensez en image, Jean-Pierre Bacri, parce que 2000, ça correspond aussi, comme Agnès, au goût des autres, où vous recevez le César du meilleur scénario pour ce film. Est-ce que vous avez, à chaque fois que vous venez ici, je suis toujours épatée par votre bande originale, par les musiques que vous choisissez. Est-ce que la musique, c'est aussi un pouvoir évocateur pour écrire des dialogues, pour écrire des scènes? Est-ce que ça fonctionne comme ça pour vous?
À moi, terriblement. le nombre de fois où j'écoute de la musique en marchant ou en voyageant, ouais. Et je me dis, j'ai envie, je sais pas de quelle scène, mais j'ai envie qu'il y ait une scène et cette musique en fond. Genre, Les Feuilles Mortes d'ailleurs, ça s'est passé comme ça. Je l'ai écouté, je sais plus quand, et je me suis dit, mais quelle chanson incroyable, il y a de quoi. Elle porte ça, une dramaturgie en elle, quoi. Voilà. Ouais.
Mais c'est parti de l'idée que Jean-Pierre faisait déjà l'imitation de d'Yves Montand.
Les Feuilles Mortes.
Ou l'imitation est venue après.
Non, c'est venu après.
D'accord. Si il faisait Carlos, ça n'aurait pas joué du tout.
Seigneur le météo. Seigneur le météo, Aglaga qui est frigo, tu présentes.
Et vous, Jean-Pierre, justement, ce rapport à la musique et à la. Quasiment à la visualisation d'une scène ou même des dialogues dans la rythmique, même des dialogues, la musique
oui,
compte.
Non. Oui, enfin bon, les dialogues ça a à voir avec la musique, ouais. Enfin, avec le rythme, tout ça, mais moi la musique je m'en sers pour mon plaisir uniquement. Ouais. Mais je passe mon temps, franchement, à écouter j'adore ça, je passe mon temps à écouter de la musique. Voilà.
Et comment vous l'écoutez? C'est-à-dire que c'est déjà les artistes que vous connaissez, soit vous laissez dériver comme on peut le faire sur Internet, d'une page à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'un univers à l'autre?
Non, il y a des gens que j'aime bien, c'est éclectique, j'aime bien la soul, j'aime bien le rap. Mm-hmm.
On le voit au début du film avec le rap. Personne. Super scène. Donc pas forcément pour créer des images pour
non,
de,
non,
pour du
pas,
film.
Non, c'est pas comme ça. Ouais. Que je le,
pas comme Agnès.
Ça m'évoque des choses, mais c'est pas. Ouais. C'est pas le même processus.
Mm-hmm. En 2005, Jean-Pierre Bacri, justement, vous écoutiez Niagara. Une chanson formidable de Niagara qui est pas la plus connue parce qu'on a plus en tête L'amour à la plage et Tiki Boom et des titres beaucoup plus pop, mais le texte est formidable cette chanson.
Le texte, j'aime beaucoup, ouais.
Niagara.
Je l'ai redécouvert récemment pour dire la vérité, c'est pour ça que je l'ai mise, parce que je l'ai passé en boucle là ces derniers temps, je sais pas pourquoi j'ai redécouvert ça. J'étais pas un archi fan de Niagara à l'époque.
À l'époque, mais maintenant, oui.
Mais tout le monde a ses limites. non, mais c'est vrai, et puis là j'ai redécouvert ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle est belle, la mélodie, le texte, tout ça, c'est vachement beau, quoi.
Et vous, en 2005, Jean-Pierre Bacri, vous êtes sur scène, dans Schweck,
à Nanterre, ouais.
De Brecht, et vous chantez déjà?
Oui, c'est vrai. Ah. Oui, parce qu'il y avait des chansons de... C'est Kurt Weill, non?
Je crois pas que c'est Kurt Weill, je crois que c'est l'autre.
Enfin voilà, il y avait des chansons.
Et ça vous appréhendiez, c'était de vous retrouver sur scène en train de chanter, parce que vous aviez déjà chanté dans On connaît la chanson.
Oui.
Mais sur scène, comme ça, face au public, non, c'est encore autre chose.
C'était un playback dans On connaît la chanson.
Donc la chanson, c'est des playbacks.
Oui, mais enfin, bon, playback. En tout cas, vous êtes mis en scène en train de chanter.
Voilà, une sorte de... Oui. Mais,
sur non, scène, non, face au pas, public, ouais.
Je n'ai pas si traqueur par rapport à ça. Je suis traqueur pour tout le reste.
Ouais.
Pour la pièce, parce que je fais que c'est vraiment un beau rôle, et donc je voulais pas me rater.
Vous ne pouvez pas nous faire une petite pause café et nous raconter un peu le pitch de Schweck? Juste là, vite fait.
Non, Schweck, c'est... Non. C'est horrible.
Je repense à On connaît la chanson et à l'idée que vous aviez eue, parce que vous n'aviez pas réalisé le film, mais vous avez réalisé la bande-annonce.
Sa première réalisation, si vous me permettez.
C'était un moment magique, et surtout un véritable concept, et je regrette que vous ne l'ayez pas développé plus, tellement l'idée est formidable de ces dialogues uniquement faits à partir de textes de chansons. Ça, c'est une idée, mais tellement géniale.
Je suis pas sûr que ça tiendrait un film.
Je sais pas si ça tiendrait un film, c'est ça. Je trouve que la bande-annonce, ça fait c'est le bon format. Je me demande si on se lasserait pas d'entendre.
Je sais pas. Bon, ok. Alors, je vais faire un jeu autour des paroles de chansons.
Moi, j'y ai pensé aussi.
J'ai bien joué avec les paroles de chansons, je trouve ça vachement bien. La même période, Agnès Jaoui, vous chantiez. Comment vous êtes tombé dans la musique?
Jean-Pierre croit que c'est moi qui ai choisi de mettre une chanson à moi.
Non,
dans
moi.
Le...
Elle a demandé Mathieu Bogart, et c'est moi qui ai voulu.
Oh, c'est bien Mathieu Bogart. C'est laquelle?
Pardonne.
Ah, d'accord. C'est laquelle que j'aime, moi, déjà?
Avant que je m'ennuie.
Pardonne, c'est là, alors, ok.
Avant que je m'ennuie, j'adore.
Ben, on vous aurait pardonné, tiens, ça vous apprendra. On n'a pas pardonné tout de suite.
Non,
c'est pas...
là, on a le solo de Marco Sarrietas.
Comment vous êtes tombé dans cette musique brésilienne, sud-américaine, oui, latine, voilà.
Parce que je suis tombée dedans, parce que je suis allée à Cuba, parce que j'aime passionnément ces musiques-là, parce que j'ai rencontré des musiciens. Et parce que voilà, j'ai chanté dans Le rôle de sa vie, que Olivier Gluzman m'y a entendu, m'a proposé de faire des concerts, et puis voilà.
Est-ce que c'est plus simple de chanter dans une autre langue que la sienne ?
Pour moi, beaucoup plus simple.
Pourquoi ?
Parce que je suis une autre. Parce que la place de la voix est absolument pas la même quand vous chantez en allemand, en italien, en espagnol ou en français. Le oui. français étant assez difficile à chanter, en tout cas moi je sais mal le faire. Et puis parce que justement j'oublie complètement le texte, le message que.
On est désinhibé aussi. Dans la mélodie.
Ouais. Pour moi, oui, je joue ouais. À l'espagnol, oui, ça m'aide.
Alors revenons à Place Publique, le film, justement, cinquième film d'Agnès Jaoui, le scénario, adaptation et dialogue Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. L'un des prismes, l'un des angles de ce film, encore une fois, avec beaucoup de facettes, et c'est ça aussi l'intérêt et l'intelligence du film, c'est la notoriété. On a demandé à Guillaume Erner. Bonjour Guillaume, vous connaissez
bonjour,
et bien ce studio
bonjour.
Et ce micro,
bonjour,
les auditeurs
bonjour.
De France Inter. Aussi, vous connaissez bien ceux de France Culture, puisque vous êtes maintenant le matinalier, comme on dit, de France Culture. Vous avez signé La souveraineté du people. Je rappelle que vous êtes docteur aussi en sociologie, ce qui va surtout aider à nous parler de ce côté narcissique de la notoriété. On parlait tout à l'heure des selfies, de ce besoin de se mettre en image. Et pour reprendre la formule d'Agnès et de Jean-Pierre, si ça n'a pas été photographié, s'il n'y a pas eu d'image, ça n'a pas existé.
Oui, c'est effectivement le narcissisme peut être considéré comme étant aujourd'hui la maladie majeure de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement la perte de la notoriété que vous racontez est à peu près la perte de la totalité des richesses qu'un individu peut avoir aujourd'hui, puisque la notoriété dans l'univers des médias est considérée comme étant en quelque sorte l'origine de toutes les autres rétributions, que celles-ci soient des rétributions monétaires ou des rétributions symboliques. Et chaque période a quelque chose qui confine au sacré. Jadis, par exemple, il y a eu une période où le martyr était considéré comme la situation la plus élevée qu'un individu pouvait obtenir. C'est encore aujourd'hui le cas dans certains régimes et dans certains systèmes. Mais en Occident, la célébrité est considérée comme étant la consécration suprême.
Et cette célébrité, lorsqu'elle fait défaut, justement, lorsqu'elle disparaît, c'est une sorte de petite mort.
C'est le monde qui se dérobe sous vos pieds. Et c'est effectivement le fait que, finalement, si plus personne ne raconte ce que vous êtes, ça veut dire que vous ne comptez plus. Si vous ne comptez plus, ça veut dire que vous n'êtes plus reconnu. Reconnu, c'est quelque chose qui fonctionne dans tous les sens du terme, d'ailleurs, parce que la reconnaissance, le fait d'être reconnu dans la rue parce qu'on est connu, mais c'est aussi en philosophie une notion qui est très largement étudiée. Chez Hobbes, par exemple, l'une des causes de guerre, c'est la non-reconnaissance. Et la lutte pour la reconnaissance, chez lui, chez d'autres, est aussi le moteur de l'histoire.
C'est le « j'existe », quoi, en fait. Et je veux que tu saches que j'existe.
C'est le « j'existe » avec un vrai problème, c'est qu'en fait, si vous considérez que chacun a droit à son quart d'heure de célébrité, alors le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vouloir devenir célèbres et peu de gens qui vont vouloir regarder ces personnes célèbres. Il va y avoir en fait un embouteillage, c'est ce que vous observez sur Twitter, sur les réseaux sociaux.
Donc ça
vous
avez beaucoup de gens qui... Celui qui est connu veut et doit rester connu pour avoir le sentiment de continuer d'exister et pour ne pas mourir. Et celui qui n'est pas connu se dit j'existerai vraiment le jour où je serai connu.
Oui, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas vraiment l'impression de vivre, d'où des conduites qui peuvent être des conduites extrêmes que vous voyez dans la télé-réalité, puisque si on demandait à n'importe qui de faire ce qu'on demande aux gens de faire dans la télé-réalité, il y aurait des plaintes auprès des ONG.
C'est-à-dire, en fait, on
dirait qu'on ne peut pas traiter des êtres humains de la sorte. Si c'est pour devenir célèbre, alors là, on est prêt, effectivement, à un certain nombre de concessions qui peuvent être des concessions.
Heureusement qu'il y a encore beaucoup de personnes qui aiment et apprécient être dans l'ombre, être des faiseurs, des artisans.
Parce que peut-être que
dans les métiers artistiques, certains réalisateurs veulent n'être que réalisateurs et n'imagineraient pas d'être devant une caméra. Je pense aussi à ceux qui font la lumière, le son, tous ces artisans ou ces artistes aussi qui ne sont pas en quête de...
Combien de temps encore ? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que aujourd'hui il y avait un prix du box-office, par exemple, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, on vit dans une société qui est de plus en plus colonisée par le quantitatif. S'il y a beaucoup de tickets, ça veut dire que le film est bon, alors que vous avez raison. Effectivement, on pourrait très bien considérer qu'un jury suffit à déterminer si un film est un bon film ou un mauvais film.
Il y a plein de merdes qui ont bien marché. Hein.
La grande vadrouille.
Réciproquement d'ailleurs, c'est juste que c'est pas le même critère.
Exactement,
c'est pas le même critère. non, et ça veut juste dire qu'on est plus capable.
Non, c'est un critère de société
oui,
de consommation.
Ça veut juste dire qu'on est plus capable de, non, mais... de supporter le jugement artistique et la crise de la critique fait partie ouais, justement
il y a
de
des
ça.
Il y a des personnes qui font leurs courses sur Internet en allant chercher ce qui est le plus vendu. C'est l'un des oui, les pertinences de recherche, c'est le plus vendu. Donc si c'est le plus vendu, c'est que ça doit être bien, donc je vais le prendre.
Et vous vendez un livre en disant déjà vendu à 150 000 exemplaires. Mais ça, c'est justement l'une des notions qui est en quelque sorte la conséquence de la célébrité, puisque la célébrité, si vous êtes liké, si vous avez beaucoup de followers, ça veut dire que vous avez une importance différente du reste de l'humanité.
Alors parlons des réseaux sociaux. Ah non, tu voulais parler d'autre
ouais,
chose, Hélène,
je t'en prie. Parler d'amour, en fait, parce que finalement... c'est comme si l'amour des siens n'était plus suffisant et qu'on avait besoin d'être aimé, d'être vu, d'être reconnu, d'être regardé. Alors moi, je dis pas forcément que c'est de l'amour bien placé, mais ça donne quand même cette sensation-là, de se dire je dois exister au regard de l'autre. C'est généralement ce qu'on fait quand on va être remarqué par quelqu'un pour obtenir en échange une forme d'amour, en fait.
Oui, sauf que dans la catégorie des people aujourd'hui, puisque toute personne qui aspire, a comme carrière la célébrité, eh bien, il peut y avoir également une part de volonté de mal agir pour faire donc un certain nombre de bad buzz. L'idée qu'en fait, la célébrité, qu'elle soit positive ou négative, est de toute façon à rechercher parce qu'encore une fois, elle est
il faut faire parler.
Monétisable.
Ouais, c'est ça. Et sur les réseaux sociaux, tu parles d'amour. Il y a les likes, il y a les cœurs, il y a le j'aime.
C'est le langage d'un pseudo-amour.
On croit avoir des amis sur les réseaux sociaux, alors qu'on en a évidemment beaucoup moins dans la vie. Les vrais amis sont comptés sur les doigts d'une main. Oui.
Vous avez un réseau, mais là aussi, si vous voulez, dans une société, dans les années 30, par exemple, il y avait un livre aux États-Unis très célèbre, Comment se faire des amis, un livre de Dale Carnegie. Et en fait, des amis, c'était des relations, des connaissances. Et aujourd'hui, c'est ce que vous avez sur Facebook. C'est-à-dire, vous n'avez évidemment pas des amis, vous avez des connaissances. Et ce réseau, c'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure, il y a encore des gens qui résistent à ça, ils sont de moins en moins nombreux. C'est-à-dire qu'être populaire dans les cours de récréation, c'est aujourd'hui un atout.
Bien sûr, et ça peut être un drame d'ailleurs quand on est la tête de Turc et qu'on est désigné comme étant le bouc émissaire. Malheureusement, des adolescents se suicident à cause des réseaux sociaux ou à cause de rumeurs ou d'informations contre eux et d'un bad buzz.
Et toujours dans le même registre, peuvent aller très loin dans le fait de se mettre en risque pour devenir célèbre, puisque là aussi, cela justifie un certain nombre de comportements.
Alors la célébrité ne passe pas forcément par le prisme de la création, de la chanson, de la comédie ou du sketch sur Internet. Il y a ceux qui veulent être célèbres juste pour être célèbres, en ne faisant rien. Vous parliez de la télé-réalité, on est quand même dans le
néant. Il ne faut pas rien y vivre. C'est ça en fait, c'est-à-dire fait de
jusqu'au jour de nuit, c'est pas rien.
Jusqu'au jour où un producteur c'est l'arrêté de mecs morts
pour les gens. Oui, mais d'un autre côté, vous voyez le nombre de personnes qui, sortant de la télé-réalité, quelle que soit leur personnalité, d'ailleurs peu importe, ont acquis une notoriété qui leur permet de faire autre chose, des livres. Par exemple, c'est compliqué a priori de trouver un éditeur. Si vous avez fait de la télé-réalité,
je voulais juste trouver un éditeur. Distinguer deux formes de télé-réalité, celles que je qualifierais plus de jeux de radio-crochet, de jeux d'aventure, qui ont un autre mérite en tout cas, et puis celles d'observer des hamsters en cage et qui sont profondément débiles. Et quand vous parlez à des adolescents qui regardent ces émissions, ils ont le recul, ils ont le second degré de dire non, mais je regarde, ils sont évidemment qu'ils sont cons, évidemment qu'ils sont débiles, mais on les regarde quand même et on s'en amuse. Donc c'est un peu des bêtes de foire plus qu'une célébrité de complicité ou de connivence. Quand un artiste est sur scène, il est en communion avec son public et tout le monde va dans le même sens.
Oui,
personne ne se moque de l'autre.
Ça veut dire aussi qu'il y a de la part des téléspectateurs un intérêt pour l'intime qui confine parfois au voyeurisme mais qui veut dire aussi que les autres la manière dont ils vivent dans les gestes les plus ordinaires, les plus prosaïques de leur existence intéressent suffisamment les téléspectateurs pour faire vivre des programmes là-dessus.
Il y a une phrase qui est toujours très drôle dans les émissions de télé-réalité mais qui est aussi dite peut-être même dans les conseils d'éducation, c'est « reste toi-même ». C'est une phrase qui maintenant ne veut strictement plus rien dire, mais est-ce que ça...
Oui, ça veut dire que finalement, la question de l'assomption de soi, de la sincérité à l'égard de soi-même est la grande question posée, tout simplement parce qu'en fait, tout dans l'existence aujourd'hui vous conduit à ne pas être vous-même, la mode... Tous les comportements qui viennent de l'extérieur, le fait de vouloir être populaire, tout ça, ça veut dire que vous
de jouer un jeu, de s'habiller comme il faut
du dehors. C'est ça. Ouais. Et donc tout ça veut dire que finalement, ce qu'il y a de plus, et c'est ça en fait qui rend les artistes assez singuliers, parce que finalement, plus ils sont eux-mêmes, plus ils sont subjectifs et rendent compte de cette subjectivité, plus ils sont artistes. Et c'est quelque chose d'assez dégueulasse parce que dans le monde actuel, on vous demande au contraire d'abdiquer cette part de personnalité pour vous conformer à un moule. C'est pour ça, à mon avis, qu'il y a une telle admiration vis-à-vis des artistes.
Merci Guillaume Erner. Je rappelle que vous êtes connu, puisque vous êtes de 7h à 9h tous les matins sur France Culture. Et restez vous-même.
C'est une célébrité endogène, ouais. Une célébrité exogène.
On pourra faire un selfie après.
Tanguy Pastureau, grippé, mais ça va aller, Tanguy.
Ça va.
Bon, on prend de vos nouvelles. Oui. Sera là tout à l'heure. Tanguy, on va beaucoup entendre le président Macron ces prochains jours.
Oui, dans une heure, il fera face à Jean-Pierre Pernaut, l'idole du terroir. Quand il déboule dans le Perche, les filles convulsent en hurlant « Prends-nous, JPP ». Et dimanche, il sera interviewé par Bourdin, le monsieur qui demande aux politiques le prix du ticket de métro, et Plenel, l'ancien pote de Ramadan qui connaissait rien de lui. On va bouffer du Macron, ce qui, vu son physique, est une promesse alléchante.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoumoudabi, Marina Rollman, Tanguy Pastureau, Guillermo Guiz, Tom Villa, et nos invités Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry.
Et n'oublions pas les spectateurs du Gers.
Exactement. Ah, toute une classe du Gers, dont des latinistes, pour lesquels j'ai une partie.
Des latinistes.
Oui, j'ai une tendresse.
Oui, moi aussi.
J'adore le latin. Bonjour les latinistes.
Cusquetandem Catilina Butere Patientia
Nostra. Jusqu'à quand, Catilina, oui, vas-tu abuser de notre patience?
Noritorite et salutent.
Absolument.
Etc. quand tu dis etc., tu es latiniste.
Ouais.
Quand tu dis même audio, vidéo... C'est du latin. Latin, il y en a à tous les étages.
Chlamydia,
tous les
jours. Voilà.
Syphilis. Enfin bon, bref.
Dans Place Publix, on ouvre même de mémoire sur cette chanson. Et ça fait combien? Elle est au début, non?
Ouais. Pratiquement. Ça fait un peu trois fois là qu'on l'a pas
dit. Ah, dis donc. Je ne m'en lasse pas. Et toi non plus, t'es moche.
Il y a d'autres chansons dans le film. Hein, merci. Motivé. Bon, ça, c'est la version originale de Zebda. Et comment vous avez fait d'ailleurs les choix de reprendre dans votre la BO de ce film, du Claude François, du Daniel Guichard aussi, la
complètement au pif.
Il y a toujours un mec dans les fins de soirée qui se chope.
Il le chante super bien.
Éric Viella.
Ouais,
absolument.
Formidable.
On était en vacances avant ensemble et je l'ai entendu chanter ça avec sa guitare et il m'a touché et fait rire. En vérité. Et puis voilà, après il y a des différentes sources d'inspiration, des chansons qui étaient dont j'avais envie avant, après, pendant, enfin.
Super comédien Éric Viard, parce que il joue le rôle de votre amant en arrivant à cette crémaillère et qui comprend pas tout ce qui se passe dans sa propre vie privée, qui arrive même pas trop à comprendre ce qui se passe dans la vie privée de sa douce et tendre, et qui est juste profondément, naturellement amoureux dans la plus simple des versions, sans aucun calcul.
Oui. C'est un personnage qui peut paraître un peu fade ou falot au départ, et finalement qui est super et qui est on ne révèle rien.
Qui
s'affirme.
Qui s'excuse beaucoup, mais finit par
s'affirmer. Oui.
C'est ça. Place publique où on a dit tout à l'heure beaucoup de facettes, beaucoup de visions possibles. On parle de la notoriété du monde de la télévision avec cette productrice jouée par Léa Drucker, qui est en contact permanent, même pendant sa fête, même pendant sa crémaillère, avec les chaînes de télé. Son assistant, qui est une espèce de merde.
Olivier Broch.
Lui c'est un bon comédien, mais l'assistant, c'est une merde. Qui change en fonction de... C'est une girouette, quoi, comme elle le dit d'ailleurs.
Ouais.
Fonction du vent, qui a une scène formidable au buffet quand il explique que sa femme est partie.
Dans la maison d'un ami.
On va pas découvrir dans le film, mais il y a des moments qui sont jouissifs.
Ouais, c'est ça, c'est cette notion de notoriété, mais de temps qui passe aussi, parce que votre personnage, on s'y attache beaucoup, forcément Jean-Pierre Bacry, parce que déjà on vous aime tout simplement en tant que comédien.
Merci.
Mais, vraiment, pour le coup.
Si vous dites ça tous les jours à tous les acteurs, mais c'est
non,
sympa.
C'est pas...
Je peux vous en donner plein.
Parce que vous faites des quotidiennes, vous.
Je peux en donner plein que j'aime pas.
Non, mais je vous l'ai dit aux toilettes quand vous faisiez pipi, Jean-Pierre.
Donc, c'est vrai, et même que je vous ai dit que le trou, ça ressemblait à la tête de Batman.
Exactement. Oh. On va montrer. On fera une photo qu'on balancera sur les réseaux sociaux. Désolé, Jean-Pierre.
Mais avoue que tu as été surpris.
J'ai été très surpris. Oui.
Avec les deux petites oreilles, tu sais.
Oui, si, c'est vrai.
Il faut le regarder avec un autre œil, le trou des toilettes.
Ouais. Ah, c'est celui-là dont vous parliez, j'avais très très peur. Mais alors donc, continue Laïla.
Ben là, je sais plus trop. Oui, là, je sais plus trop. Mais je vous aime bien quand même. Même après cette anecdote.
Vous dites que, vous dites qu'il est attachant. Voilà, est attachant parce qu'on l'aime bien.
Vous voyez la force de mon affection pour vous, c'est que même après ça, je vous aime toujours.
Oui, vous passez. C'est quand même. Excusez-moi,
je sais plus ce que je disais. Je parlais de Castro, de cet homme qui voit le temps qui passe, qui essaie de se raccrocher, qui se compare sans cesse aux autres, parce que c'est ça aussi. C'est le temps qui passe. On l'éprouve comment? En se voyant tous les matins, mais en voyant aussi les autres de la même génération et en portant un regard parfois un petit peu difficile sur eux en se disant oui. Qu'est-ce qu'il a pris ou qu'est-ce qu'elle a pris, et tout d'un coup ça on se renvoie à sa propre personne, et c'est ce jeu de miroir qui est intéressant toujours dans le film. C'est que un élément ne peut pas être compris s'il n'est pas mis en regard avec un autre, et fondamentalement je trouve que c'est le ressort essentiel, moi, du film, cette notion de notoriété par rapport à qui,
ouais,
ce miroir par rapport à qui, selon si c'est le groupe de jeunes au bord de la piscine ou si ce sont plutôt les plus âgés qui sont un peu en retrait de la scène un peu festive. Et je trouve que voilà, votre personnage, il est très
même
bien
le rapport
senti.
Dans la famille aussi, c'est par rapport à la vision de la fille, par rapport à la vision du nouvel amant. C'est vrai que voilà, l'angle, le prisme. C'est un bon film, et pardon si on a du mal à plus vous en parler. On veut juste vous donner envie d'y aller sincèrement. En tout cas, vous ne serez pas déçus. C'est le 18 avril au cinéma. Vous ne serez pas déçus non plus par Tant qu'il passe sur, évidemment, qui m'apprête info. Tanguy, ça y est, Emmanuel Macron parle ou va parler.
Oui, il était temps, il a quand même 40 ans, on l'a pas vu grandir. Macron, pendant longtemps, ça a été un mélange du mime Marceau et de Carla Bruni, on l'entendait pas parce qu'il était au-dessus de nous, dans sa bulle, avec Brigitte, Nemo et ses poules. Il a la même vie que Chico d'Égypte en plein pèlerinage gitan. Normal, il n'a pas été élu pour taper la discute avec le peuple, cette masse grouillante et vulgaire qui trouve Benoît Hamon trop beau mais déplore qu'il soit de gauche. Et du coup, une distance s'est créée avec nous. Au début, Macron, c'était le gamin qu'on aurait pu avoir. On avait envie de lui faire bouffer de la semoule en lui calquant les fesses, sauf les participants aux soirées de Mina qui rêvent toujours de faire ça, mais accrocher la tête en bas avec des chaînes sur Libertine de Mylène Farmer. Et là, il s'est mis plein de gens à dos, et il est considéré comme le président des villes, hein, pour qui Iris Orangis, c'est déjà la cambrousse. Vous mettez un ficus dans son bureau, il fait construire un parking autour du ficus parce qu'il trouve qu'il y a trop de verre. Macron, ce qu'il aime, c'est petit déjeuner dans le 8e avec l'émir du Qatar ou Xi Jinping, et tenter de leur vendre Chambord pour une découpe en studette, ou la Nièvre afin de construire 27 aéroports, dans le but unique de faire rentrer le brosouf. Seulement la France des terroirs, celle qui galère toujours en ADSL et écoute Trio. Elle se tourne vers Wauquiez, car le gonze la parcourt dans tous les sens. Un chaque vache a déjà vu passer au moins 4 fois Wauquiez, et même des taureaux. Ce qui pose problème, parce que l'autre se baladant en parc à rouge, les bestiaux l'embrochent. Là, il a 18 trous. Un Trump va venir péter sur lui, ce qui n'est pas dégueulasse, c'est juste un truc de golf. Et Wauquiez, il a l'argent du conseil régional d'Auvergne. Ça tombe du ciel, comme à Fort Boyard, sauf que personne ne crie Félindra tête de tigre. Il a arrosé les chasseurs du coin à raison d'1 million par an. Les mecs tirent avec des balles en or, donc peuvent rétamer des vampires, des loups-garous, mais aussi des cerfs ou d'autres êtres qui se lavent peu, comme Johnny Depp. Là, Macron, qui n'est pas bête, se dit, mais par la lueur divine qui émane de tout mon être. Le Wauquiez est en train de se constituer une base de fans campagnards. Et en 2022, c'est-à-dire demain, en politique, parce que les politiques comptent en âge tekel, 1 an = 7, les ruraux vont voter pour lui, ou pour le PS, juste par tradition, parce que mémé Ghislaine a voté socialiste toute sa vie, par flemme de réfléchir. En Marche, c'est un truc d'urbain, de geek, de gagnant de la mondialisation, qui semble loin du village. C'est pourquoi, ce jour, dans 3 quarts d'heure, Macron à la télé va faire face au chantre du bocage, au king de l'humus dans les sous-bois. S'il n'était pas si vieux, il ferait zadiste. J'ai nommé Jean-Pierre Pernaut.
Donc, le président et Jean-Pierre Pernaut sont, pour cette occasion, dans l'Orne.
Oui, dans une petite commune, Berduy. C'est dans le Perche, le territoire des Parisiens friqués qui veulent du bon air sans se mêler au kéké bling bling de Deauville. Alors ils seront précisément dans l'école de Berduy, car dit-on à TF1, Pernaut considère que tout commence à l'école. Alors que c'est faux. Hein, d'abord il y a la crèche, puis en remontant le temps, le Youpala, et encore avant, l'utérus. Mais impossible de filmer Macron devant un utérus. Hein, même si les Saoudiens qui sont très prudes sont partis, puisque les maquilleuses à la télé font juste les visages, mais pas les sexes. Alors qu'à partir d'un certain âge, ça demandait pourtant moins
moins de travail. Oh. La maquilleuse qui a Drucker, je suis désolé, mais elle a envie de lui dire, Michmi, je retire tout. Ce soir, je te fais le bas parce que pour le haut, c'est pas moi, c'est Lafarge. Alors à Berdui, c'est Marine Le Pen, hein, qui est arrivée en tête il y a un an au premier tour. Ensuite, elle a fait son numéro de clown de la piste aux étoiles pendant le débat et s'est viandée. Donc Macron arrive en terrain non conquis, mais il kiffe les challenges. C'est un type, vous lui roulez sur les deux pieds en 38 tonnes. 4 heures après, il s'aligne au départ du marathon de Paris et se tape les 42 bornes sur les mains. Alors seulement, il réalise le loustic qu'une interview à 13h chez Pernod. Il y aura surtout des seniors, des chômeurs, des employés de préfecture, puisque c'est fermé de 11h à 16h, réouverture 16h05, fermeture 16h15, et des dépressifs en ITT qui gobent du Valium et planent. Hein, quand ils vont le voir, ils vont crier « Vas-y Pompidou !» Il a donc organisé une autre interview. On va bouffer du Macron comme à Koh-Lanta des vers géants qui jutent du pus blanchâtre. Dimanche à 20h35, il sera sur RMC, BFM et Mediapart. C'est un gros risque parce que 10 minutes plus tard, j'ai ma chronique en face sur C8 chez Ardisson. J'ai pas envie parce que je suis un gentil, mais je vais l'éclater. Hein. Et Brigitte va réaliser que le bon parti, en fait, c'était moi. Mais je lui dirai trop tard, fallait penser avant, hein, mon chaton. Alors, Macron sera interrogé par Jean-Jacques Bourdin, hein, de Radio Binouz et Taxi, et Edoui Plenel, l'islamo-gauchiste à tête de brassin, teint en noir. Un qui a la nuque longue et l'autre la moustache. Donc, si Macron plisse les yeux et que les deux tronches se superposent, ça donnera Tom Selleck dans Magnum. Oui. Alors, il n'est interviewé que par des sexagénaires. Hein, en fait, il fait collection. Ensuite, le 22, il sera sur TV Mélodie en duo avec Daniel Guichard. Et le 28, sur Gulli avec le grand-père de l'âne Trotro. Mais son but est de parler à l'ensemble des cibles commerciales, bien sûr. Hein. Si demain, il faut aller chercher les jeunes qui fument du shit, il est capable de partir en live avec Fred dans Planète Rap sur Sky. Hein, ouais, c'est MC Chroma dans la Diora, en placine pour le Def, mais ouais. Bon, pendant tout un temps, il n'a rien dit, mais là, il revient avec une grosse verve pour défendre son bilan, comme Hollande, mais avec 4 ans d'avance.
Bravo, merci Tanguy Passion. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Parlons aussi, dans Place Publique, de votre fille, puisqu'elle écrit, sur vous deux. Cette notion de roman plus ou moins biographique à charge vous est venue, parce qu'il y en a eu pas mal qui sont malheureusement sortis. Il y a quelques familles qui se déchirent sous les feux de la rampe.
Certains en font un business, même.
C'est, ouais, et puis j'allais dire, c'est même tristement d'actualité. Vous ne pouvez pas le savoir au moment où le film sort, que ça serait d'actualité des déchirements intramuros dans une famille. Mais comment vous est venue l'idée, en tout cas, de la bio qui dérange?
Merde, je me souviens pas du tout.
Comment ça nous est venu? Je me souviens pas non plus. Mais il se trouve que cette jeune femme qui est jouée par Dina Meurice, qui est une merveilleuse actrice.
C'était la ponctuation. C'était quoi? C'était le
temps. Parce que j'adore cette actrice. Ouais.
Moi aussi.
Viens.
Regardez à qui je dis viens.
Oh,
à qui je dis viens. Bah, à qui je dis viens. À Léa Drucker, à votre productrice, Léa Drucker, ouais. Invitée exceptionnelle, qui fait un bisou et qui s'en va. Bisous et au revoir. Au revoir, madame la productrice. J'aime beaucoup ce que vous faites.
Oui, parce qu'en fait.
Le melon qu'elle a. T'as vu, elle nous parle même plus.
Ouais. Parce qu'en fait, dans son bouquin,
on va la casser, on va casser sa carrière en 12
secondes. Il y a 4 phrases, hein.
Oui, enfin.
Non.
Il y a quelques phrases sur moi et quelques phrases sur Agnès, enfin sur le personnage que joue Agnès.
Oui, mais ça vous touche.
Ça vous détruit complètement, vous savez très bien.
Et surtout, vous dites c'est l'intimité, elle n'a pas à sortir sur la place publique.
Voilà.
C'est le paradoxe, parce que vous...
Le gros paradoxe, c'est ce qu'elle me dit d'ailleurs. Tu passes ton temps à étaler la vie des gens, tu les fais boire même pour qu'ils se lâchent plus facilement. Ouais, tu viens me faire une espèce de truc de pudeur.
C'est des questions.
Mais qu'on en a vu des animateurs, qui pratiquent l'ironie ou la moquerie, ouais. Dans les portraits qu'ils font des gens, et deux trois fois ça a été renversé. Ils l'ont hyper mal pris. Ouais, c'est assez drôle.
Bien sûr.
Évidemment.
Est-ce que la vie privée, puisque votre notoriété depuis toutes ces années dont nous avons parlé tout à l'heure avec tout ce que vous avez fait, vous la protégez d'une manière particulière au quotidien? Est-ce que vous avez été victime de paparazzi, ou est-ce que vous évitez de lire tout ce que l'on pourrait raconter sur vos vies? Est-ce que vous dites à vos enfants, justement, ne réponds pas aux questions qu'on peut te poser sur tes parents? Enfin, comment gérer la notoriété au quotidien?
Alors là, je fais rien du tout et on me fait rien non plus.
Pareil.
Ah oui, on vous embête pas?
Non.
Ben non, parce qu'on n'est pas déjà, ne pas être sur les réseaux, tout ça, ça simplifie beaucoup. Hein. Mm-hmm. Et puis nous. Hormis les réseaux, par rapport à la notoriété, c'est ce qu'on dit souvent quand on nous pose cette question, on n'est pas populaire au point d'être emmerdé. Mmh.
On vous arrête dans la rue, on vous demande
mais ce sont toujours des gens gentils, comme ça, qui sont...
Non, mais
je veux dire, c'est et bienveillant, et je dirais pas rare, mais à chaque fois, c'est une ou deux personnes que vous croisez comme ça. Il y a des gens qui font partie de nos amis, qui sont hyper populaires, et là, pour le coup, qui ne vivent plus, quoi. C'est-à-dire que tu fais trois pas dans la rue et t'as tout de suite une grappe de 15 personnes, tu sais pas d'où ça sort. Ça, j'y ai assisté, ça, c'est être populaire. Nous, on a un public comme ça, des gens qui nous aiment bien. On n'est pas très emmerdés,
franchement. En tant qu'artiste, ne plus plaire, cette question, vous la posez aussi.
Je la pose à chaque fois.
Au grand public.
Ouais, comme la baisse d'audimat dans le personnage du film, ne plus plaire, ne plus avoir de monde au théâtre, ne pas rencontrer le succès à la sortie du film.
Ça fait partie d'une carrière. Puis après, on remonte sur son cheval et puis on réessaie. Enfin, c'est pas tant de plaire, mais de pouvoir s'exprimer. De pouvoir faire des choses auxquelles on croit. Et quand ça rencontre un public, évidemment, c'est merveilleux. Quand ça ne rencontre pas, c'est moins bien.
Bah tiens, puisque vous en parlez, voici Marina Rollman.
Ah bah alors.
Mais c'est méchant, c'est gratuit. Mais c'est gratuit. C'est gratuit.
Non. On n'a pas d'humour avec ça.
J'y vais? Ouais, d'accord, ok.
T'as pas eu des applaudissements du Gers comme tu le voulais?
C'était très bien, vous êtes parfait. Surtout les latinistes. Aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler de gentrification. Alors, la gentrification, qu'est-ce que c'est? C'est si t'es un petit blanc, pas trop pauvre, de moins de 40 ans et que, par exemple, t'as envie de manger tamoul. Et ben, la gentrification, c'est qu'au lieu d'aller dîner dans un resto tamoul qui se trouve dans un quartier tamoul, avec autour des magasins tamoul et à proximité des tamouls qui font le genre de trucs qu'ils aiment bien faire, genre habiter, et après de rentrer chez toi, plutôt que de faire ça, donc toi, ton pouvoir d'achat et ton petit chignon, vous emménagez dans le quartier tamoul. Tu ouvres toi-même un resto tamoul alors que t'es pas du tout tamoul, hein. Tu es très blanc, tu prétends que tu es un quart Cheyenne, mais ça c'est comme Johnny Depp, c'est surtout une excuse pour mettre des bijoux. Tu ouvres donc ton resto tamoul et dans ton resto tamoul, il n'y a pas de tamoul. Et d'ailleurs, bientôt dans ton quartier tamoul, il n'y a plus de tamoul. Il n'y a que des gens comme toi, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de bébés, il n'y a personne qui a un vrai métier. Moi j'en peux plus, je suis dans le 9e en ce moment. Il n'y a que des trentenaires qui errent comme ça entre des restos de bibimbap et de tacos, qui ont l'impression d'exercer leur libre arbitre, d'être en rupture totale avec les conventions tout en faisant la direction artistique d'une pub Mercedes et qui se touche comme ça en parlant diversité sur un vélo à 2000 balles entre un magasin APC et un artisan vanier fromager et qui te disent des trucs en vapotant genre ah attends c'est l'enfer Trump comment il dérégule la protection de l'environnement ouais c'est pour ça moi au States je vais plus qu'en Californie ouais on y est souvent avec Jess pour le boulot mais c'est vrai que là-bas tu respires tu sens pas tout le truc hyper républicain un peu garçon c'est juste chiant les 12 heures d'avion quoi et 20 ans plus tard la gentrification c'est que toute cette belle bande de gros rebelles ils sont bien contents de revendre leur appartement qui se trouve maintenant dans le quartier le plus cher de la ville, tout en essayant évidemment d'échapper à un impôt sur la succession dont ils comprenaient le sens quand ils étaient de jeunes aspirants graphistes qui arrivaient à peine à se payer un jus de poire à la fin du mois. Mais aujourd'hui, bon, ça fait un peu chier, quoi. Et attention, j'ai bien conscience de faire partie du problème, hein, mais donc je me pose la question, aller vers les quartiers populaires alors que tu n'en viens pas, aller vers des quartiers d'immigrés très divers alors que t'es né blanc en Europe occidentale, est-ce que c'est pas un tourisme un peu malsain au fond? C'est comme moi, une fois par an, j'ai des potes qui reviennent de voyage et quand ils me montrent les photos, dans le tas, il y a forcément un ou deux portraits de gamins cambodgiens, tout sourire, face caméra, avec des maillots de foot un peu pourris. Et à chaque fois, moi, j'ai envie de leur dire, et toi, ça te ferait plaisir si tes gosses, ils étaient en photo dans la cuisine d'un connard à Phnom Penh. Et en même temps, si je continue comme ça, et que je dois trouver un endroit où vivre dans mes moyens, mais dans un quartier blanc bourgeois, je pense que je vais finir par emménager dans une boule à neige sous la tour Eiffel. Voilà où on en est, les gars. Bon, finalement, heureusement que je vous ai, vous, les amis. Vous me gardez ancré dans le réel, parce que c'est vrai qu'il y a du laid, du moins laid, du riche. Du moins riche, du moins récent, du cultivé, du plus simple. C'est la vraie vie, quoi, ici. Merci.
Merci, Marina.
Bravo.
La bande originale avec Nagui.
Génial.
C'est bien vu, c'est bien senti, c'est bien écrit. Merci. Quel talent, c'est incroyable.
Tu l'as lancé comme une malle propre.
Non, c'est pour ça que je me rattrape. Oui, faisant une déclaration d'amour.
L'intelligence, la pertinence, c'est toujours hyper agréable.
Ça paye toujours. Le 18 avril, sortie de Place Publique, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry sont venus nous en parler. Nous vous encourageons vivement à aller voir ce très bon film. Le 14 novembre prochain, Agnès, vous serez à l'affiche des Bonnes Intentions de Gilles Legrand avec Léonard Confino. Vous y faites quoi dans ce film?
Alors, j'y accueille des migrants, justement, dans ma propre maison. Enfin bon, je ne sais encore comment pitcher ce film, puisque je l'ai terminé avant-hier.
D'accord. Ouais, mais on en parlait avec Daniel Pénac, ça reste un acte illégal. C'est-à-dire
c'est fou,
que
hein.
Voilà, si on en parlera, pardon, avec Daniel Bénac dans une émission que nous avons enregistrée. Donc,
délit de solidarité.
Exactement, voilà, comme on, c'est en parlera, on en parlera.
Et ça pose vraiment question. Et c'est vrai que
Bénac, non, mais la question, c'est que si aujourd'hui, vous qui nous écoutez avez la main sur le cœur et ouvrez votre porte à un migrant en disant je vais l'accueillir, je vais l'héberger, je vais le protéger, ouais, on est passible d'être condamné par la loi. Ouais. C'est ça le thème du film ou pas ?
Pas du tout.
D'accord.
mais il n'empêche que...
Vous croyez ça ? Vous croyez...
Mais bien
ah
sûr,
oui, oui, bah, c'est illégal.
L'actualité, bah, y a un procès.
Non, je veux dire, on peut être condamné, c'est pareil que de fumer un truc de shit, on peut être condamné, mais on n'est pas condamné.
Il y a des procès.
Il y a
eu des condamnations, et il y a eu d'ailleurs des pétitions pour soutenir...
Parce que tu reçois quelqu'un chez toi ?
Cédric Herrou, c'est quoi ?
Cédric Herrou, parce qu'il a aidé, alors il n'a pas juste reçu chez lui, mais il a aidé à passer, parce que ces personnes étaient en difficulté, il n'a pas voulu les abandonner là, et il les a fait traverser et les a mis en sécurité. Et pour le coup, ouais, il a été appelé devant les tribunaux.
Non, c'est classe.
Oui, mais c'est pour ça que délit et solidarité dans la même phrase, c'est toujours un petit peu perturbant, mais c'est quand même un état de fait.
Donc ça s'appellera, Les bonnes intentions, et ça sortira en novembre prochain. Et pareil, pour la rentrée prochaine, Jean-Pierre Bacri, vous serez à l'affiche de Big Bang, un film réalisé par Cécilia Rouault, que vous avez déjà tourné ou pas ?
Qui ne s'appelle, oula, je l'ai tourné, oui.
Ah, qui ne s'appelle pas Big Bang, ça a changé ?
Qui ne s'appelle plus Big Bang, qui va s'appeler autrement.
C'est
autrement.
Film.
Oui, c'est non, autrement.
Ah,
autrement.
Oui, d'accord. J'ai cru que c'était une blague encore. Pardon. Pardon, Jean-Pierre.
Non, et voilà, et qui va sortir en septembre, effectivement. J'ai tourné avec Camille Cotin, Vanessa Paradis, Pierre Deladonchamp.
Et la question, c'est que faire de Mamie, c'est ça ?
Exactement.
De Mamie.
Et c'est un film très drôle et très intelligent.
Bah,
des
qualificatifs qui vont très bien à Place Publique aussi, que l'on vous encourage encore une fois à aller voir. Des excuses à présenter, Tom Villa.
Oui, désolé déjà pour le vigile de Radio France qui a surpris Jaoui tout à l'heure. Elle pensait se faire fouiller le sac et lui voulait juste un selfie. Donc voilà, pour ceux qui croiseraient Agnès Jaoui dans la rue, elle préfère quand même un selfie que de se faire fouiller le sac. Désolé pour le César de la comédie qui a été roulé dans la boue par Jean-Pierre Bacri. Oui, il s'en fout, mais alors royalement, mais vraiment, il s'en fout. Il s'en fout même plus que quand Nagui fait le pitch de l'invité, c'est vous dire. Désolé également pour Mister V que Nagui ne connaissait pas.
Bah non.
Et je l'ai eu tout à l'heure au téléphone à la pause. Si ça peut te rassurer, lui il te connaît, mais par contre il te déteste.
Ah.
Et puis pour finir, désolé à tous ceux qui pensaient qu'ils étaient amis avec Nagui. Nagui qui a bien dit tout à l'heure que même si on a 1 million d'amis sur Facebook, dans la vraie vie les amis ça se compte sur les doigts d'une main. Alors mauvaise nouvelle sur Twitter, en 10 minutes t'es passé de 560 000 followers à 5 followers.
Mais ce sont pas des amis.
Voilà, bah, du coup c'est pas grave. France 2 réfléchit à confier, n'oubliez pas les paroles, à Mister V.
Merci mille fois Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri. Mercredi prochain, le 18, Place Publique. Et demain, c'est François Hardy qui sera notre invité dans la bande originale. Philippe Bertrand, bonjour.
Oui, bonjour la bande. La, 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 la.
Salut.
Et, tu veux chanter Yves Montand, toi aussi ?
Oui.
Ok.
Chinguine, joli fruit. Et dites donc, Place Publique, c'est une flambaison de crémaillère, c'est ça ?
C'est ça.
Ah, c'est génial. Non, j'aime bien ces pitchs, c'est pour ça. Non, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas de jeu de mots.
Non, non, j'attendais quelque chose.
D'accord.
Ok.
Chungin, Julie Fruit. Ah, du même.
Mais il est dans quel état ? Il prend des trucs ?
Ouais, c'est ça qui est le plus
limite. Le thé vert, c'est en infusion qu'il faut le prendre. C'est pas en fumée. Bonne émission, ciao.
Salut les amis.